Chapitre 8. Richard posa son sac de couchage entre ceux de Nietzsche et de Kara et le déroula.
Nietzsche, sur le site du carnage, tu as parlé de frénésie de sang.
Le sourcier s'adossa à la paroi rocheuse sous la saillie qui servait de support au toit.
Que voulais-tu dire?
Eh bien, qu'il ne s'agissait pas d'une tuerie classique. Nietzsche s'assit en tailleur sur son sac de couchage.
Mais ça sautait aux yeux, non?
Richard dut reconnaître que son ami venait de marquer un point. Il n'avait jamais rien vu de pareil, il fallait l'avouer. Cela dit, Nietzsche en savait plus long sur le sujet, il en était certain.
« Je pense qu'il ne sait pas, si vous voulez mon avis, »
fit Kara, assise à gauche du sourcier.
« Je ne sais pas quoi, »
demanda Richard, son regard volant de l'une à l'autre de ses compagnes. Nietzsche passa les doigts dans ses longs cheveux mouillés, puis écarta une mèche qui lui tombait sur les yeux.
« Tu as bien reçu ma lettre, ai-je cru comprendre ?»«
Je l'ai reçue, oui. »
Cet épisode remontait à un moment. Dans ce message, si Richard se souvenait bien, Nietzsche parlait des gens transformés en armes par Jagang.
Ta lettre nous a aidés à comprendre ce qui était en train d'arriver. Et j'ai apprécié que tu nous mettes en garde contre les détenteurs du don métamorphosés en armes mortelles par l'empereur. Nicolas le Chapardeur était un exemplaire particulièrement réussi.
Nicolas ?
Répéta Nietzsche sans dissimuler son mépris.
Une banale puce dans le pelage d'un loup.
Si Nicolas était la puce, Richard espérait ne jamais rencontrer le loup qui allait avec. Le Chapardeur, un sorcier modifié par les sœurs de l'obscurité, était doté de pouvoirs qui dépassaient l'imagination. On avait longtemps cru qu'altérer les gens était impossible depuis des millénaires, essentiellement parce que les métamorphoses de ce type exigeaient l'usage combiné des deux variantes de magie, l'additive et la soustractive. Même si de rares sorciers parvenaient à lancer des sorts soustractifs, personne ne naissait plus avec le don pour cette version noire du pouvoir. Personne, à part Richard, bien entendu. Le premier à déroger à la règle depuis des millénaires. Cela posé, on pouvait jusqu'à un certain point apprendre à utiliser la magie soustractive. Darkenral comptait parmi les sorciers qui y étaient parvenus. D'après ce qu'on racontait, il avait livré l'âme d'enfants innocents aux gardiens du royaume des morts, en échange de petites faveurs, naturellement, notamment l'accès à la magie soustractive. Selon Richard, c'était en jurant allégeance à ce même gardien que les premières sœurs de l'obscurité avaient obtenu le même privilège. Puis, elles l'avaient transmis en secret à leurs disciples infiltrés dans les rangs des sœurs de la lumière. Après la destruction du palais des prophètes, Jagang avait capturé beaucoup de sœurs des deux obédiences. Mais avec le traitement qu'il infligeait à ses femmes, leur nombre diminuait rapidement, murmurait-on. Celui qui marche dans les rêves avait le pouvoir de s'introduire dans l'esprit d'un être humain et d'en prendre le contrôle. Aucune pensée intime ne lui échappait, un viol mental qui ne laissait aucun jardin secret à la victime. Mais il y avait plus terrible encore. Les esclaves psychiques de l'empereur ne savaient jamais s'il était ou non entré dans leur esprit, se délectant de les espionner. Selon Nietzsche, cette forme très particulière de possession avait coûté leur santé mentale à de nombreuses sœurs. À travers le lien magique, Jagang pouvait infliger de la douleur à ses marionnettes, voire les assassiner. Grâce à son pouvoir, Jagang était en mesure de contraindre les sœurs à faire tout ce qu'il leur ordonnait. Un sort lancé par un ancêtre de Richard, afin de protéger son peuple des prédateurs tels que Jagang, très répandu à l'époque, permettait d'immuniser toute personne qui jurait allégeance au seigneurial. Le sourcier avait hérité de cette aptitude puisqu'il était le fils de Darkenral, et tous ceux qui lui étaient loyaux ne risquaient pas que Jagang s'introduise dans leur esprit pour les plier à sa volonté. Pour bénéficier de cette protection, il fallait prêter serment en répétant des dévotions rituelles. Le cérémonial avait son importance, comme souvent, mais l'efficacité du sort dépendait en réalité de la conviction et de la sincérité des serviteurs et des élateurs du seigneurial. L'ancienne dame abbesse des Sœurs de la Lumière, Anna, et la femme qui occupait à présent le poste, Verna, s'étaient toutes les deux introduites dans le camp ennemi pour tenter de sauver leurs amis et collègues. Pour être tirées d'affaire, les sœurs prisonnières auraient simplement dû prêter allégeance à Richard. La seule condition était de n'avoir aucune arrière-pensée lorsqu'on se déclarait fidèle à Richard. Terrifiée par Jagang, la plupart de ces femmes n'avaient pas saisi l'occasion de recouvrer leur liberté. Et il n'y avait rien d'étonnant à cela. Bien des gens reculaient devant les efforts et les prises de risques que la liberté exigeait d'eux. Ces pleutres préféraient s'illusionner et prendre leur soumission pour une preuve de réalisme. Nietzsche avait été l'esclave de la confrérie de l'ordre, des sœurs de la lumière, des sœurs de l'obscurité et enfin de Jagang. Mais cette période de son existence était révolue. Désormais, elle partageait avec Richard une valeur fondamentale, l'amour de la vie. Depuis qu'elle avait embrassé la cause du sourcier, elle ne courbait plus l'échine sous le joug d'aucune tyrannie. L'ancienne maîtresse de la mort était désormais convaincue que sa vie lui appartenait, et cette certitude ajoutait encore à la noblesse de son apparence et de ses actes. « Je n'ai pas lu toute la lettre, » avoua Richard. « Ce soir-là, nous avons été attaqués par des hommes de Nicolas. Je t'ai raconté la mort de Sabar, alors inutile de revenir là-dessus. Mais pendant le combat, la lettre est tombée dans le feu de camp. »«
Par les esprits du bien, »
souffla Nietzsche accablé.
« Je croyais que tu savais. »«
Que je savais quoi ?» répéta Richard, sa réserve de patience presque épuisée.
« Comme au temps des grandes guerres, les sœurs prisonnières peuvent transformer des gens en armes, tout ça grâce à Jagang. Sur bien des points, c'est un esprit brillant et il ne cesse jamais d'apprendre. Chaque fois qu'il investit une cité, il se procure de nouveaux livres. J'en ai vu certains, des grimoires qui remontent à l'époque des grandes guerres. Même s'il est intelligent et capable de marcher dans les rêves, Jagang n'a pas le don, et il ne comprend pas grand-chose à la magie. Il ignore ce qu'est exactement le Han et comment il fonctionne. Lorsqu'on n'a pas le don, il est très difficile d'appréhender ces réalités-là. Tu es né avec les deux facettes du don, Richard, et pourtant tu n'as rien d'un sorcier compétent. Jagang est au moins aussi ignorant que toi. Ça ne l'empêche pas de se lancer dans de grands chantiers magiques, parce qu'un empereur, affirme-t-il, a le droit d'exiger que ses rêves les plus fous se réalisent.
« Ne le sous-estime pas trop sur ce point, » dit Richard en s'essuyant le front d'un revers de la main. « Il sait peut-être ce qu'il fait, en tout cas davantage que tu le penses. »«
Que veux-tu dire ?»«
Tout le monde est informé que je ne suis pas un grand sorcier, mais j'ai au moins appris une chose. » La magie peut être considérée comme une forme d'art. Par l'intermédiaire de la création artistique, faute d'un meilleur terme, on peut lancer des sorts inédits et innovants.
Nietzsche en resta un instant bouche bée.
« Richard, »
dit-elle quand elle se fut ressaisie,
« où es-tu donc allé chercher ça? Les choses ne marchent pas ainsi. »
« D'accord, d'accord. Callan aussi pense que je déraille sur ce point précis. » Elle a été élevée avec des sorciers qui l'ont un peu formée à la magie et elle m'a plusieurs fois affirmé que je me trompais, mais je suis sûr que non. J'ai utilisé la magie d'une manière nouvelle et originale et ça m'a tiré de pièges qui auraient dû être mortels.
Nietzsche dévisagea Richard avec une intensité d'entomologiste. Soudain, il comprit pourquoi. Ce n'était pas à cause de son discours sur le don, mais parce qu'il évoquait de nouveau Callan. La femme qui n'existait pas, son épouse imaginaire. L'air morose de Kara prouvait qu'elle partageait la vision des choses de Nietzsche.
Richard jugea plus prudent d'en revenir au vif du sujet. Jagang n'a pas le don, mais ça ne l'empêche pas de concevoir en rêve des créatures ignobles, comme Nicolas. C'est de cette usine que sortent les armes humaines contre lesquelles nous ne pourrons peut-être pas nous défendre. Je parie que les sorciers de jadis procédaient exactement de la même façon.
« Richard !»
s'écria Nietzsche, de plus en plus nerveuse.
« La magie ne fonctionne pas ainsi. Il ne suffit pas de rêver pour obtenir quelque chose. Le pouvoir obéit à des lois bien spécifiques, comme toute chose en ce monde. Les songes ne transforment pas un tronc en planche. Il faut une scie pour ça. Quand on désire une maison, on ne peut pas attendre que la charpente et les briques s'assemblent d'elles-mêmes. Il faut intervenir, travailler avec ses mains. Certes, mais c'est l'imagination qui rend possible et surtout efficace ces actions concrètes.
La plupart des bâtisseurs pensent en termes de maison ou de ferme. Ils font ce qu'on faisait avant eux parce que ça existait, tout simplement. Comme ils ne veulent pas se donner la peine de réfléchir, ils n'ont aucune vision nouvelle. Ces gens se contentent d'imiter, et pour se justifier, ils affirment qu'on a toujours procédé ainsi et qu'il faut donc continuer. La magie souffre aussi de ses limitations. Beaucoup de détenteurs du don refont ce qui a été fait avant eux, tout bêtement parce que c'est plus facile comme ça. Avant la construction d'un grand palais, il faut qu'un architecte audacieux imagine un bâtiment tel qu'il n'en a jamais existé. Des hommes occupés à bâtir une étable ne donneront jamais naissance à un château, n'est-ce pas ? Pour modeler la réalité, on doit d'abord passer par le stade du concept. Mais pour que l'imagination permette la construction d'un palais, il est essentiel de respecter toutes les lois qui régissent les matériaux requis. Quelqu'un qui invente les plans d'un tel bâtiment doit parfaitement connaître les outils et les matières premières qui seront utilisées, sinon le palais s'écroulera très vite. Et notre bâtisseur aura intérêt à maîtriser son sujet bien mieux que des types qui construisent une étable. La complexité d'un projet est évidemment une donnée très importante. La création n'est pas un acte visant à affranchir l'humanité des lois de la nature. Bien au contraire, c'est un processus de pensée original qui intègre parfaitement les lois en question. J'ai grandi dans la forêt de Heartland, et je n'avais jamais vu de palais avant de connaître celui de Tamarang, en Galéa, la forteresse du sorcier, le palais des inquisitrices en Aïdindril et le palais du peuple en Dara. Je n'avais jamais imaginé que de tels lieux existaient, voire qu'ils pouvaient exister. Avant mon départ de Terre d'Ouest, les bâtiments de ce genre dépassaient mon imagination. Mes limites de cette époque ont-elles empêché d'autres hommes de dessiner les plans de ces palais, puis de les faire construire ? Bien sûr que non. J'ai tiré une leçon de cette expérience. Une des fonctions majeures des grandes créations est d'inspirer les gens. Nietzsche semblait fasciné par les explications de Richard. La question qu'elle posa prouvait que ses théories lui paraissaient dignes d'intérêt. « Dois-je comprendre que l'expression artistique peut influencer un processus aussi capital que le fonctionnement de la magie ?» Richard sourit. « Pense à ta propre trajectoire. Avant de voir la statue que j'ai sculptée en Alterrang, la vie te semblait sans importance et sans valeur. Lorsque tu as vu la matérialisation de ces concepts, tu as mis ensemble toutes les choses apprises au cours de ta vie et ça t'a permis de saisir la notion d'unicité de l'existence, celle qui est la clé de tout. Une œuvre d'art touche l'âme des gens. Voilà pourquoi j'affirme que les chefs-d'œuvre inspirent les hommes. La statue t'a fait prendre conscience de la beauté de la vie et de la noblesse de l'humanité. À partir de là, tu as combattu pour obtenir la liberté. Quand je t'ai connu, tu aurais dit que c'était du temps perdu. Les habitants d'Alterang ont également été stimulés par la statue, et ils ont décidé de se dresser contre la tyrannie. Crois-tu que ce résultat a été obtenu parce que j'ai respecté les canons de la sculpture en vigueur dans l'Ancien Monde ? Pense à la façon dont l'humanité est représentée. Une espèce faible et inefficace. Non, c'est une certaine idée de la beauté et de la noblesse qui a guidé ma main. Je n'ai jamais perdu de vue la nature du marbre qui me servait de support. Mais j'ai tiré parti de ses qualités pour créer une œuvre très différente de celle des artistes de l'Ancien Monde. Avant de commencer, j'ai recensé les caractéristiques de la pierre, j'ai appris à manier le burin, et je me suis efforcé de comprendre comment je pouvais sublimer le marbre pour atteindre mes objectifs. Victor m'a fabriqué de formidables outils spécifiquement conçus pour m'aider à traduire mes intentions dans la réalité. En ce sens, je peux dire que j'ai donné vie à quelque chose qui n'existait pas avant moi. Il en va de même pour la magie, j'en suis persuadé. Pour moi, ce sont des idées qui ont présidé à la création d'armes humaines. Après tout, si ces armes furent si efficaces, n'est-ce pas en grande partie grâce à leur originalité ? Parce que personne ne les avait jamais imaginées ? Bien souvent, le camp adverse pour se défendre a dû créer de nouveaux artefacts magiques. Mais lorsqu'une abomination était ainsi neutralisée, les sorciers ennemis s'empressaient d'imaginer une nouvelle horreur. Si une utilisation créative de la magie était impossible, comment les anciens sorciers auraient-ils pu produire des armes nouvelles ? Ne me dis pas qu'ils ont trouvé des idées dans d'antiques grimoires.
Même si c'est le cas, il a bien fallu un jour que quelqu'un eût l'idée de transformer les gens en armes. À l'origine, on trouve nécessairement une personne qui a rêvé avant d'agir.
Je crois que Jagang a renoué avec cette façon de faire. Il a étudié l'époque des grandes guerres, découvert quelles armes on inventait alors et tiré les leçons qui s'imposaient de ses recherches. Il se peut qu'il imite des monstres venus du passé, comme Nicolas, mais dans beaucoup d'autres cas, je suis certain qu'il imagine l'arme vivante qu'il aimerait avoir dans son arsenal. Puis il ordonne à des magiciennes compétentes de lui procurer ce qu'il désire.
Quand on parle de création, la quantité de travail directement fournie ne compte pas tant que ça. L'essentiel, c'est d'avoir les idées et la stratégie qui rendent le labeur efficace et profitable pour tout le monde. Ces idées doivent être adaptées à l'ouvrage en cours, bien entendu. Et c'est même pour ça que des maçons et des charpentiers habitués à construire des étables peuvent être employés sur le chantier d'un palais. Dans tous les chefs-d'œuvre architecturaux que j'ai vus, la qualité du travail de ces corps de métier n'était pas déterminante. La clé de voûte, c'était la vision intérieure et la créativité des architectes qui expliquaient à ces artisans ce qu'il fallait faire et comment on devait s'y prendre.
Nietzsche hocha presque imperceptiblement la tête.
Je vois que ta position n'est pas du tout fantaisiste, contrairement à ce que je pensais. Je n'ai jamais été confronté à une telle façon de raisonner, et il faut que je réfléchisse à tout ça. Tu es peut-être le premier qui comprend en profondeur le fonctionnement intellectuel de Jagang, sans parler de celui des antiques sorciers. Si tu as raison, ça répondrait à des questions que je me pose depuis des années.
Dans les propos de Nietzsche, on sentait tout le respect qu'elle éprouvait pour un concept radicalement nouveau. Mais il était tout aussi évident qu'elle comprenait en profondeur la théorie de Richard. Aucun des interlocuteurs du sourcier n'avait jamais fait montre d'autant d'ouverture d'esprit au sujet de la magie. On eût dit que quelqu'un, pour la première fois, avait véritablement saisi sa façon de voir les choses.
J'ai dû en découdre contre une création de Jagang. Comme je l'ai déjà dit, Nicolas n'était pas un adversaire facile.
Plissant les yeux pour mieux voir dans la pénombre, Nietzsche dévisagea longuement Richard.
D'après ce que j'ai entendu dire, le chapardeur n'était qu'un prototype. Jagang s'exerce, et il n'a pas encore donné toute sa mesure.
Un prototype ? Nicolas ? J'ai des doutes, Nietzsche. Ce sorcier était une formidable création, presque un chef-d'œuvre. Il nous a donné du fil à retordre, tu peux me croire.
Possible. Mais tu as fini par le vaincre.
Richard ne cacha pas sa surprise.
À t'entendre, on dirait que c'était un jeu d'enfant. Mais tu trompes. Nicolas était un sorcier redoutable et il a bien failli nous tuer tous.
D'accord. Et pourtant, Jagang vise des créations beaucoup plus ambitieuses. Tu m'as dit de ne pas sous-estimer l'empereur, ne tombe pas dans le même travers. Jagang n'a jamais pensé que Nicolas serait à ta hauteur. Ta thèse sur l'importance de l'imagination est particulièrement pertinente dans le cas qui nous occupe. Elle pourrait même expliquer certaines choses. D'après le peu que j'ai pu apprendre, Nicolas devait surtout servir à développer les compétences des sœurs de l'obscurité chargées de transformer des êtres humains en armes. Le chapardeur n'était pas le but suprême de Jagang, mais une simple étape sur un long chemin. La diminution constante du nombre de sœurs augmente la pression que subit l'empereur. Mais jusqu'à présent, il lui reste assez de magiciennes pour la création des armes.
Richard eut la chair de poule dès qu'il eut saisi toutes les implications du discours de Nietzsche.
Si je comprends bien, Jagang a entraîné ses maçons et ses charpentiers en leur fournissant Nicolas comme matière première. Pour pousser la métaphore jusqu'au bout, il leur a fait construire une maison, mais il prévoit de les mettre à l'ouvrage sur un palais.
C'est exactement ça.
Mais il a nommé le chapardeur gouverneur d'un pays, il lui a fourni une armée et il l'a chargé de nous capturer.
De la poudre aux yeux, tout ça. Dans l'intérêt de sa grande expérience, Jagang a instillé chez Nicolas le désir de te traquer.
Il n'espérait pas sérieusement que le sorcier réussirait. L'empereur te déteste parce que tu veux l'empêcher de conquérir le nouveau monde. Il fait mine de te tenir pour un adversaire sans valeur, et il aimerait te voir mort le plus vite possible. Cela dit, il n'est pas stupide, et il sait ce que tu vaux au fond de lui.
C'est exactement comme lorsque tu as chargé un prisonnier d'assassiner Jagang.
Tu savais que cet homme avait peu de chance d'y parvenir, mais comme il n'avait aucune valeur à tes yeux, tu as quand même tenté le coup, histoire d'occuper l'ennemi pendant que tu réfléchissais à un meilleur plan. Et si ton tueur a été abattu, tu t'en fiches, parce qu'il a largement mérité la mort. Nicolas représentait la même chose pour Jagang. Un outil pas terriblement utile. Mais tant qu'à faire, il valait mieux s'en servir plutôt que de le jeter. S'il avait rempli sa mission, quelle divine surprise! Et dans le cas contraire, en tuant le chapardeur, tu rendais service à ton pire ennemi.
Richard se passa une main dans les cheveux. Tout ce qu'il venait d'entendre le désorientait. Il avait reproché à Nietzsche de ne pas avoir une vision d'ensemble, et voilà qu'il avait commis le même péché.
« Dans ce cas, dit-il, que prépare Jagang? Quel monstre pire que Nicolas va-t-il sortir de sa manche ?»
Le chant des cigales parut soudain angoissant à Richard, comme si les insectes étaient l'avant-garde d'une armée ennemie.
« Je crois qu'il l'a déjà sorti,
soupira Nietzsche.
« Les hommes de Victor en sont le témoignage. J'ai bien peur qu'ils aient rencontré la nouvelle arme de l'ordre impérial. »
« Et que sais-tu exactement sur le chef-d'œuvre de l'empereur ?»«
Pas grand-chose, avoua Nietzsche. Quelques mots prononcés par une de mes anciennes consoeurs, juste avant qu'elle parte en voyage. »«
En voyage ?
Pour le royaume des morts. »
Au ton de Nietzsche et à son regard fixe, Richard préféra ne pas demander pour quelle raison et dans quelles circonstances la sœur avait décidé de quitter ce monde.
« Bien. Que t'a-t-elle dit ?»«
Elle m'a raconté que l'empereur se livrait à des expériences sur des prisonniers et des volontaires. Certains jeunes sorciers pensent qu'ils se sacrifient pour une noble cause. »
Nietzsche secoua tristement la tête.
« Elle m'a aussi confié que Nicolas n'était qu'une étape sur le glorieux chemin de Jagang. »
Elle leva les yeux pour être sûre que Richard l'écoutait bien.
« Selon elle, l'empereur serait sur le point de créer un monstre, inspiré des antiques grimoires, mais bien plus dangereux, dépourvu de défauts et invincible.
Un monstre ? Qu'entends-tu par là ?
Une bête invulnérable.
Et as-tu découvert à quoi elle ressemble ? Ou quels sont ses pouvoirs ?
Pour une raison qui le dépassait, Richard ne parvenait pas à prononcer le mot « bête », comme s'il risquait de faire apparaître le monstre dans les ténèbres environnantes.
Juste avant de mourir, la sœur de l'obscurité a souri. On eût dit le rictus satisfait du gardien quand il a fait le plein d'âme. Puis elle a murmuré « Quand Richard Rale utilisera son pouvoir, la bête saura enfin qui il est. Alors elle le traquera et le tuera. Sa vie sera bientôt terminée. Comme la mienne.
A-t-elle dit autre chose ?
Les convulsions l'en ont empêché. Les ténèbres se sont abattues dans la pièce quand le gardien est venu chercher son âme, le prix à payer lorsqu'on pactise avec lui. Mais pour en revenir à notre sujet, comment cette bête nous a-t-elle trouvés ? C'est la question qui me tracasse, et aussi ce qui me fait dire que la situation n'est peut-être pas si désespérée. Au fond, qu'est-ce qui nous prouve que les hommes de Victor ont été tués par le monstre de Jagang ? Richard, tu n'as pas utilisé ton pouvoir, donc cette créature n'avait aucun moyen de nous localiser. »
Le sourcier baissa les yeux sur ses bottes. « Le matin de l'attaque, dit-il, je me suis servi du don pour dévier les projectiles. Mais j'ai raté mon coup avec le dernier.
« Seigneur Hall, intervint Kara. Je crois que vous vous trompez. Selon moi, vous vous êtes servi de votre épée pour dévier les flèches et les carreaux.
Tu n'étais pas là, donc comment peux-tu le savoir? Avec ma lame, je combattais les soldats. Elle ne pouvait pas me protéger des projectiles et c'est pour ça que j'ai recouru à mon don. »
Nietzsche se redressa le dos bien droit.
« Tu as utilisé ton pouvoir? Comment y as-tu accédé ?»
Richard haussa les épaules sans même s'en apercevoir. Il aurait voulu en savoir plus long sur ses propres actes.
« Par le biais du besoin, » répondit-il.
« J'ignorais que j'allais déclencher une catastrophe. »
« Ne te torture pas pour rien, »
coupa Nietzsche.
« Tu ne pouvais pas savoir, et si tu n'avais rien fait, tu serais mort à l'heure qu'il est. À ce moment-là, tu n'avais pas entendu parler du monstre. De plus, je crains que tu ne sois pas le seul responsable. »«
Que veux-tu dire ?»«
J'ai dû contribuer à trahir notre position. »«
Toi ? Mais comment ?»«
Pour me débarrasser du sang et pouvoir te soigner, j'ai invoqué la magie soustractive. » Même si la sœur de l'obscurité n'a rien dit à ce sujet, j'ai eu le sentiment que ce monstre était lié au royaume des morts. Si j'avais raison, avoir lancé un sort soustractif a peut-être permis à la bête de découvrir le goût de ton sang.
« Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit Kara. « D'autant plus qu'il n'y avait pas d'autre solution. Si vous aviez laissé mourir le seigneur Ral, Jagang aurait obtenu ce qu'il veut depuis le début. »
Nietzsche apprécia visiblement la tirade de la mort de Sith.
« Que peux-tu me dire d'autre sur cette créature ?»
demanda Richard.
« Rien de très important, j'en ai peur. La mourante m'a confié que les sœurs chargées de la fabrication des armes par Jagang avaient conduit une expérience sur Nicolas avant de passer aux choses sérieuses. Même dans ces conditions, des sœurs sont mortes pour métamorphoser le chapardeur. Avec ses pertes précédentes, Jagang doit se montrer économe, et c'est nouveau pour lui. Fidèle à sa réputation de pragmatisme, il a lancé l'opération « monstre » tant qu'il lui restait assez de magiciennes. Toute l'affaire fut plus difficile et plus compliquée que la création de Nicolas, mais le résultat semble être plus que satisfaisant. Je soupçonne Jagang d'avoir exigé que les sœurs empruntent des raccourcis qui passent sûrement tous par le royaume des morts. Si nous devons combattre cette bête, il faut en apprendre aussi long que possible à son sujet. Hélas, nous n'avons pas beaucoup de temps. »
Richard saisit l'allusion très peu voilée. Nietzsche entendait qu'il oublie ses fantaisies au sujet de Kalan pour affronter la nouvelle menace imaginée par Jagang.
« Je dois retrouver ma femme, » dit-il simplement.
« Si tu es mort, tu ne retrouveras personne. »
Richard retira son baudrier et posa l'épée de vérité contre la paroi rocheuse.
« Nietzsche, nous ne sommes même pas sûrs que la bête ait tué ses hommes. »«
Que veux-tu dire ? » ?»«
Si elle m'a repéré parce que j'ai utilisé mon pouvoir, pourquoi s'en est-elle pris à ces malheureux ?»«
D'accord, c'est là que j'ai lancé un sort, mais 3 jours se sont écoulés. La bête n'avait aucune raison d'attaquer les hommes de Victor. »«
Sauf si elle pensait que vous étiez parmi eux, » dit Kara.
« Une très bonne hypothèse, » renchérit Nietzsche.
« Peut-être, » murmura Richard. « Mais si elle m'a identifié par le biais de mon pouvoir, et si tu lui as en plus fait connaître le goût de mon sang, elle aurait dû savoir que je n'étais pas là. »«
Pas nécessairement, » dit Nietzsche. « Ta magie peut l'avoir attirée dans les environs, mais tu as dû cesser de l'utiliser avant qu'elle t'ait repéré. Furieuse de t'avoir raté de si peu, cette créature s'est vengée sur tes compagnons. » Dans ce cas, elle doit attendre que tu te serves de nouveau de ton don afin de t'attraper.
La sœur a dit que la bête me reconnaîtrait si j'avais recours à mon don. Il n'a jamais été question de plusieurs utilisations.
Te reconnaître et te trouver, voilà 2 choses bien différentes,
lança Nietzsche.
La première est en fait. Le monstre attend peut-être une seconde occasion pour passer à l'attaque.
Un raisonnement plein d'une terrifiante logique.
Si tu vois juste, je suis vraiment ravi de ne pas dépendre exclusivement de mon don.
Seigneur Hall, à partir de maintenant, vous devrez nous laisser vous protéger. Il faut éviter toutes les situations qui pourraient éveiller votre magie.
Kara a raison, dit Nietzsche.
Je ne suis pas certaine que la bête connaît le goût de ton sang. Mais la sœur mourante m'a bien dit que tu signerais ton arrêt de mort si tu recourais à la magie.
tant que la bête te pistera et que nous ne saurons pas comment la neutraliser, tu ne devras pas utiliser le don, quelles que soient les raisons ou les circonstances. »
Richard hocha vaguement la tête. Il voulait bien capituler puisque ça n'avait aucune conséquence. Ne sachant comment il éveillait sa magie, il ne voyait pas comment il aurait pu l'empêcher de se manifester. Jusque-là, la colère et le besoin avaient été la clé de tout. Mais comment prédire quand il serait de nouveau furieux ou confronté à une menace mortelle? La théorie de Nietzsche n'était pas absurde, mais il y avait un petit détail gênant. Sorcier instinctif, Richard n'avait aucun contrôle sur son pouvoir. De toute façon, une idée terrifiante venait de lui traverser l'esprit. La bête pouvait l'avoir identifié et savoir parfaitement où il était. Et si elle avait tué les hommes de Victor simplement pour étancher sa soif de sang? Dans ce cas, elle avançait peut-être vers l'abri en ce moment même, le bruit de ses pas couvert par le chant des cigales. Nietzsche dévisagea longuement Richard, puis elle tendit une main pour lui tâter le front.
« Nous devrons prendre du repos, » dit-elle. « Tu trembles de froid. Dans ton état, une montée de fièvre serait désastreuse. Étends-toi. Nous allons nous tenir chauds les uns aux autres. Mais d'abord, il faut que tu ne sois plus mouillé. »
« Et comment allons-nous nous sécher sans feu ?» demanda Kara.
« Couchez tous les deux, »
ordonna Nietzsche. Richard obéit, Kara aussi, à contre-cœur. L'ancienne maîtresse de la mort se pencha sur eux et passa les mains au-dessus de leur tête. Richard sentit le picotement de la magie, mais il ne trouva pas ça désagréable cette fois. Il vit la douce aura lumineuse qui enveloppait également Kara. Pour traiter ainsi une mort de Sith, il fallait lui faire une confiance absolue, puisque ces femmes étaient formées pour s'emparer du pouvoir des sorciers et des magiciennes et le retourner contre eux. En un sens, il était plus étonnant encore que Kara se laisse faire, parce que ses collègues et elle détestaient la magie sous toutes ses formes. Les mains de Nietzsche descendirent jusqu'au pied du sourcier et de sa garde du corps. Richard eut soudain la sensation de n'avoir plus un poil de mouillé. Passant une main sur ses vêtements, il constata qu'ils étaient parfaitement secs.
« Alors, ça fait du bien ?» demanda Nietzsche.
« Je préférerais encore être trempé, » marmonna Kara.
« Je peux arranger ça si tu veux. »
Kara glissa les mains sous ses bras pour les réchauffer et ne dit plus rien. Satisfaite de voir que Richard était content, Nietzsche se sécha elle-même, déplaçant ses mains sur sa robe comme si elle entendait les saurer. Quand elle eut terminé, elle tremblait de froid et claquait des dents, mais son corps et sa robe noire étaient secs. Inquiet de la voir grelotter à ce point, Richard se releva et lui prit gentiment le bras.
« Ça va ou tu risques de t'évanouir ?»« Je suis très fatigué, c'est tout. Le manque de sommeil, l'effort de te guérir, le voyage d'aujourd'hui. Désolé, mais l'épuisement me rattrape. Un sortilège mineur, et voilà que je vacille sur mes jambes. Je dois dormir, et toi aussi, Richard, même si tu ne t'en rends pas compte. » « Rallonge-toi, je t'en prie, tenons-nous chauds et dormons. »
Sec mais toujours gelé et pas très vaillant, Richard se glissa dans son sac de couchage. Nietzsche avait raison, il devait récupérer. S'il n'était pas en forme, il ne pourrait pas aider Callan. Sans hésiter, Kara se pressa sur le flanc gauche de son seigneur pour l'aider à se réchauffer. Nietzsche fit de même sur le flanc droit et Richard se sentit rapidement mieux. Jusque-là, il n'avait pas mesuré à quel point il avait froid. Là encore, Nietzsche avait raison. Il n'était pas dans son état normal. Par bonheur, il avait besoin de repos, pas d'une thérapie magique. « Nietzsche, tu crois que cette bête a pu enlever Callan pour m'appâter ?» L'ancienne maîtresse de la mort prit le temps de la réflexion.
« Une créature pareille n'a pas besoin de telles ruses pour te trouver. » « D'après tout ce que je sais, elle te localisera sans trop de difficultés, et considérant le carnage dans la clairière, je crains que ce ne soit déjà fait. »
Richard se sentit plus coupable que jamais. Sans lui, tous ces hommes auraient été encore en vie. La gorge serrée, il regretta qu'il soit impossible de revenir en arrière. S'il avait pu modifier le passé, rendre leur vie et leur avenir à ces braves gens,
Seigneur Hall,
dit soudain Kara,
j'ai un aveu à faire, mais il faut jurer que vous ne le répéterez à personne.
La première fois que Richard entendait la mort de Sid parler ainsi. Que lui arrivait-il? C'est promis? Alors, cet aveu?
La réponse mit longtemps à venir, et d'une voix si basse que Richard ne l'aurait pas entendue dans des circonstances normales.
J'ai peur.
Même si une petite voix lui souffla qu'il faisait une erreur, Richard passa un bras autour des épaules de Kara et l'attira vers lui. Il ne faut pas. La bête en a après moi, pas après toi. Kara leva la tête et foudroya son seigneur du regard.
C'est bien pour ça que j'ai peur. Après avoir vu ce carnage, je crains de ne pas pouvoir vous protéger.
Bien sûr. Si ça peut te réconforter, ça m'inquiète beaucoup aussi. Kara reposa sa tête sur l'épaule du sourcier. Apparemment, elle aimait bien qu'il la protège aussi de temps en temps. Le chant des cigales rendait Richard nerveux comme s'il se sentait plus vulnérable. Ce cycle de vie de 17 années était difficile à comprendre, à analyser et à maîtriser. Exactement comme le monstre de Jagang. Comment pourrait-il échapper à une telle créature?
Au fait,
lança Nietzsche d'un ton léger comme si elle voulait détendre l'atmosphère.
Où as-tu rencontré la femme de tes rêves?
Une tentative d'humour? De l'ironie blessante? S'il n'avait pas aussi bien connu Nietzsche, Richard aurait juré qu'elle était jalouse. Le regard perdu dans le vide, il repensa à cette fameuse journée. J'étais dans la forêt, en quête de preuves pour découvrir l'identité du meurtrier de mon père, ou plutôt de mon beau-père, George Cypher, l'homme qui m'a élevé. Soudain, j'ai remarqué Callan sur la piste qui fait le tour du lac Trent. 4 hommes la suivaient, des assassins envoyés par Darkenral. Il avait fait exécuter toutes les autres inquisitrices. Callan était la dernière.
« Vous l'avez secouru ?»
demanda Kara.
« Disons que je l'ai aidé.
Ensemble, nous avons tué ses agresseurs. Elle venait en Terre d'Ouest pour retrouver un grand sorcier. Très vite, il s'est avéré que c'était Zed. Il détenait toujours le titre de premier sorcier, même après avoir quitté les contrées du milieu pour s'installer en Terre d'Ouest un peu avant ma naissance. En grandissant, je n'ai jamais su qu'il était un sorcier, et mon grand-père. Je le tenais simplement pour mon meilleur ami.
« Que voulait Callan à ce grand sorcier ?»
demanda Nietzsche. Elle avait levé la tête et Richard sentait son souffle chaud contre sa joue. Darkenral avait mis dans le jeu les boîtes d'Orden, le plus terrible cauchemar qu'on puisse faire. Il fallait l'arrêter avant qu'il ouvre la bonne boîte. Callan était à la recherche de Zed pour lui demander de nommer un sorcier. Depuis le jour où je l'ai rencontré au bord du lac, Trent, ma vie n'a plus jamais été la même.
« Un coup de foudre, si je comprends bien. »
lança Kara. Les deux femmes tentaient de distraire Richard pour qu'il ne pense plus au massacre des hommes de Victor et aux monstres qui le traquaient. Et si le cadavre déchiqueté de Callan gisait dans les bois, pas loin de l'endroit où ils avaient campé quelques nuits plus tôt? Cette idée était si terrible que Richard crut qu'un poing géant lui écrasait le cœur. Il ne leva pas la main pour essuyer les larmes qui ruisselaient sur ses joues, mais Nietzsche s'en chargea. Une tendre et brève caresse d'une étrange douceur. « Nous devrions essayer de dormir, » dit Richard. Nietzsche retira sa main et la lui posa sur le bras. Malgré l'obscurité, Richard ne parvint pas à fermer ses yeux qui picotaient étrangement. Très vite, il entendit le souffle régulier de Kara qui s'était endormie comme une masse. Nietzsche se serra contre Richard et posa la tête sur son épaule. Tout était bon pour se réchauffer. « Nietzsche ?» demanda le sourcier.
« Oui.
Quel genre de torture Jagang inflige-t-il à ses prisonniers ?» Nietzsche eut un gros soupir.
« Désolé, mais je ne répondrai pas. Cela dit, tu sais très bien que l'empereur est un homme dur et violent. »
Richard n'avait pas pu s'empêcher de poser la question. Il fut sincèrement soulagé que l'ancienne maîtresse de la mort se soit dérobée ainsi. Quand Zed m'a remis l'épée de vérité, je lui ai dit que je ne deviendrai jamais un meurtrier. Depuis, j'ai appris que tuer les méchants était souvent la seule façon de préserver la vie. Si seulement chasser l'ordre impérial du Nouveau Monde pouvait être aussi facile que de tuer Jagang.
Si tu savais combien je regrette de ne pas l'avoir exécuté quand j'en avais l'occasion. Tu as raison, ça ne mettrait pas un terme au conflit. Mais je ne peux cesser de penser à tout ce que j'aurais pu faire, toutes ces chances que je n'ai pas saisies.
Richard passa son bras libre autour des épaules de Nietzsche. Elle aussi s'endormit très vite. S'il voulait trouver Callan, Richard devait se reposer. Sentant de nouvelles larmes perler à ses paupières, il ferma les yeux. Sa femme lui manquait tellement. Il repensa à leur rencontre la première fois qu'il l'avait vue dans sa robe blanche. La tenue rituelle de la mère inquisitrice, avait-il appris plus tard. Le vêtement mettait en valeur la silhouette de Callan et lui conférait une extraordinaire noblesse. Avec ses longs cheveux qui cascadaient sur ses épaules, elle était d'une beauté à couper le souffle, et dans ses yeux verts brillait une sagesse et une intelligence stupéfiantes pour quelqu'un de si jeune. Ce jour-là, Richard avait dès le premier instant eu l'impression de connaître Callan depuis toujours, comme si leur rencontre était des retrouvailles. Quand il lui avait parlé des quatre hommes qui la traquaient, elle lui avait demandé s'il allait l'aider. Sans réfléchir, il avait répondu par l'affirmative. Depuis, il n'avait jamais regretté une seconde d'avoir pris cette décision. Et maintenant, elle avait de nouveau besoin d'aide. Avant de sombrer dans un sommeil tourmenté, Richard pensa une ultime fois à la femme qu'il aimait.